Hervé Brailly, bonjour.
Monsieur Testo, bonjour.
Vous êtes le président fondateur de Inat Pharma. On va parler avec vous, bien sûr, de votre actualité et des perspectives. En quoi cette année 2014 est importante pour Inat Pharma ?
Alors, ce premier semestre 2014 a été particulièrement riche. En fin 2013, nous avions un positionnement intéressant dans le champ en pleine expansion de l'immuno-oncologie, avec un premier actif en clinique, en phase 2, dans différentes indications, avec notre partenaire Bristol Myers Squibb. Et sur ce premier semestre, nous avons réalisé l'acquisition d'un deuxième actif, le IPH22, prêt à rentrer cette année en phase 2. Et donc, à l'issue de cette opération, nous nous positionnons comme la seule société biotech mid-size ayant deux actifs dans le domaine des inhibiteurs de checkpoint, qui est véritablement porteur de très gros potentiel en cancérologie. Et nous avons réalisé fin juin une levée de fonds permettant de développer ce deuxième actif propriétaire.
Pour ceux qui ne sont pas spécialistes de ce segment de marché, qu'est-ce qu'on trouve derrière ces anticorps, ce qu'on appelle donc immunomodulateurs, qu'est-ce qui change finalement ?
Je crois rien moins qu'une révolution dans les stratégies thérapeutiques de la prise en charge des maladies tumorales. Alors, ceci est maintenant une donnée avérée. Ce n'est pas une promesse, alors pas sur nos produits, mais sur d'autres produits. Nous avons vu plusieurs enregistrements maintenant. Ipilimumab de Bristol Myers Squibb a ouvert le bal, si j'ose dire. Puis très récemment, un deuxième produit, l'anti-PD-1 de Merck, qui a été également enregistré. Alors, ces deux produits, dans une première indication, le mélanome, où le tableau des options de traitement a changé de façon radicale, mais on attend, dans les mois à venir, des résultats fondamentaux et de nouveaux enregistrements dans des grandes indications, comme notamment le cancer du poumon. Donc, il y a vraiment une nouvelle approche au travers du développement de toute une famille de produits visant le système immunitaire.
Quelque part, c'est rétablir les capacités de ces cellules immunitaires. C'est vraiment...
Oui, si vous voulez, si la tumeur se développe, c'est en relation avec le système immunitaire qui n'est pas capable ou n'est plus capable de contrôler la croissance tumorale. En situation normale, on a une surveillance permanente du système immunitaire qui élimine les cellules malignes. Alors, si la maladie se développe, c'est qu'il y a un échappement, et les mécanismes moléculaires, biologiques qui sont à la base de cet échappement sont maintenant assez bien compris, enfin en tout cas pour partie, et permettre une intervention thérapeutique ciblée dans différents points. Donc il y a différentes approches, il y a 5 inhibiteurs, 5 voies d'inhibition de points de contrôle qui sont en cours de développement, et d'ailleurs Inat Pharma travaille sur 2 de ces 5 voies, les 3 autres étant développées par des géants de l'industrie pharmaceutique.
Donc le financement du mois de juin donc permettra pour vous d'avoir cette visibilité sur ces études à venir ?
Alors absolument, notre objectif était d'avoir un horizon de financement qui nous permette sur les principaux programmes cliniques de la société d'atteindre des étapes de preuve de concept ou des étapes pour le premier produit où on a une vraie visibilité. Alors beaucoup de choses vont se passer dès 2015, on attend pour notre premier programme des résultats importants, mais sur notre deuxième programme, on est plutôt sur 2016-2017 et le financement réalisé avec un horizon de cash annoncé aujourd'hui correspondant à nos 80 à peu près 79 millions d'euros à la banque nous permettent d'atteindre ces étapes de valeur, de création de valeur essentielle.
Vous parliez du partenariat avec Bristol Myers Squibb. Justement dans ce domaine-là, la stratégie de la société d'Inat Pharma avec ses grands acteurs.
Alors notre choix en 2011 a été d'engager un partenariat avec la société qui était, qui est toujours l'un des acteurs majeurs, il y en a 3, de ce secteur de l'immuno-oncologie. C'était à la fois une validation et l'accès à des moyens, à des ressources globales pour développer ce produit. Maintenant, l'enjeu stratégique pour nous fin 2013, en étant bien financé et en ayant un engagement fort du partenariat à développer, c'était d'avoir un deuxième programme propriétaire. À partir de là, toutes les options sont évidemment ouvertes, mais nous avons un actif propriétaire dont nous contrôlons, si vous voulez, à la fois le développement et les potentialités commerciales.
Vous le dites souvent dans votre communication, les États-Unis, c'est vraiment l'axe prioritaire pour vous, c'est là où il y a le marché
D'abord, le marché final sera évidemment mondial. Force est de constater que l'immuno-oncologie s'est d'abord développée aux États-Unis. C'est un état de fait, même si certains concepts sont issus de la recherche fondamentale et clinique européenne. Et en tout cas, il y a eu une réceptivité, si vous voulez, des acteurs à la fois financiers et industriels américains qui étaient plus forts, ce qui nous a conduit, de fait, à avoir une partie de notre stratégie, et notamment en termes de stratégie de communication financière, vers les États-Unis. Bon, maintenant, je crois que les concepts d'immuno-oncologie, l'impact attendu, ça c'est des notions qui diffusent, et on peut penser que les investisseurs européens vont arriver sur ce secteur de façon plus importante, avec ce décalage de sans doute environ 2 ans.
Alors on a parlé de programmes sur lesquels vous vous concentrez. Est-ce qu'il y a d'autres programmes qui sont aussi en développement?
Oui, alors là, j'ai mentionné les deux actifs les plus avancés, celui qui est en phase 2B, donc avec un essai qui n'est pas encore à visée d'enregistrement, mais qui peut déboucher possiblement sur un enregistrement, ou en tout cas, en cas de succès, sur une étude à visée d'enregistrement. J'ai mentionné ce deuxième programme qui va rentrer en phase 2, donc avec l'objectif d'obtenir des données d'efficacité. Nous avons un troisième programme qui doit entrer en clinique en 2015, l'an prochain, qui est le programme IPH41, qui lui vise une indication orpheline, mais avec une voie de développement qui est relativement simple et un engagement de moyens qui est plus modeste par rapport à des programmes d'immuno-oncologie qui visent de larges indications. Et puis, par ailleurs, nous sommes d'abord et avant tout une société de recherche qui développe des produits propriétaires. Tous nos produits sont ce qu'on appelle des first in class, abordant des mécanismes nouveaux. Donc on a une grosse activité recherche, découverte, de nouveaux anticorps et de nouvelles voies, et celle-ci se poursuit. Et c'est un aspect de création de valeur qui est essentiel, notamment du point de vue de la pharma, maintenant que ce champ commence à se consolider.
Le mot de la fin pour les actionnaires qui suivent la société depuis longtemps, bon, ils ont vu cette augmentation de capital. Quand il y a ce type d'opération, ça crée de la dilution. Quel est l'horizon pour eux, finalement, quand ils regardent Innate Pharma, sur la rentabilité, sur le retour, finalement, sur ces investissements?
Je peux que renvoyer aux comparables, et notamment aux comparables d'immuno-oncologie. Je ne commenterai pas les soubresauts et le court terme, pour ma part et pour ce qui est de la société. On s'inscrit plus dans la perspective d'une création de valeur massive, mais de long terme, qui correspond à l'émergence d'un domaine nouveau où on a un positionnement unique.
Eh bien, merci Hervé Braillet d'avoir été avec nous.
Merci Monsieur Testot.